Merci d'écouter Europe 1, il est 18h.
Les faits, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité.
C'est l'affaire qui agite le monde et les plus hautes sphères de l'État en France. Le projet Pegasus, l'espionnage de plus de 50 000 personnes sur la planète. 1000 lignes téléphoniques en France ont également été surveillées.
Le corps de l'homme qui était en cavale depuis deux jours dans les Alpes-Maritimes a été retrouvé. Il se trouvait dans un endroit montagneux et escarpé. Les causes de sa mort ne sont pas pour le moment encore connu.
Mission réussie pour Jeff Bezos, le milliardaire américain, a été aujourd'hui avec trois autres passagers, les deuxièmes touristes de l'espace. Un bref voyage qui leur a permis d'apercevoir la Terre depuis les étoiles.
18 000 cas de contamination en 24 heures en France. La France est balayée par la quatrième vague. C'est la ruée dans les centres de vaccination comme à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le département le plus touché en France. Nous serons sur place dans ce journal.
À la bourse, le CAC 40 clôture ce soir en hausse de 0,4%. 1% à 6346 points.
Et puis la tendance météo, Marlène Duré. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Thierry. Du soleil et de la chaleur demain avec simplement quelques averses en montagne. Un soleil qui mettra quand même un petit peu de temps à se montrer dans le sud-ouest. Les grisailles matinales habituelles. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'affaire qui secoue en ce moment le monde diplomatique, le projet Pegasus.
Oui, l'espionnage à échelle mondiale par le Maroc de journalistes et de dissidents via un logiciel israélien. Une affaire qui a donné lieu cet après-midi à un vif échange à l'Assemblée entre Alexis Corbière, député de la France Insoumise, et Jean Castex. Écoutez.
Dimanche dernier, un consortium international de 17 médias nommé Forbidden Stories a révélé l'existence d'un vaste réseau d'espionnage mondial via les téléphones portables nommés Pegasus. Ce réseau, fondé sur un logiciel provenant de NSO, groupe privé très proche du gouvernement israélien, serait à l'origine de la surveillance massive de 50 000 personnalités politiques, journalistes, avocats, militants, citoyens et entreprises à travers le monde. En France, un millier de nos concitoyens seraient concernés. Avec Pegasus, il ne s'agit pas d'une cyberattaque privée, mais bien d'un acte d'agression d'État contre État. Le gouvernement français, pour l'heure, n'a fait connaître aucune réaction officielle, si ce n'est quelques propos évasifs de son porte-parole. Pourtant, c'est notre souveraineté et notre indépendance qui sont en cause. Étiez-vous au courant de ces faits graves avant les révélations de la presse? Savez-vous d'ailleurs si certains d'entre nous, ici sur ces bancs, sont concernés par cet espionnage? Enfin, quelles sanctions allez-vous engager contre les pays qui ont utilisé ce logiciel, notamment le Maroc, mais aussi le gouvernement israélien?
Les faits que vous venez de rapporter, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité. Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité, investigations qui n'ont pas abouti, et il ne m'est donc pas possible de m'exprimer à ce stade devant la représentation nationale et devant la nation.
Voilà, c'était à 15h donc à l'Assemblée nationale. Pegasus, c'est 50 000 lignes téléphoniques surveillées à travers le monde, parmi lesquelles 1000 numéros français. On le sait, hein, depuis avant-hier, des journalistes, des patrons de presse ont été écoutés. Et ce qu'on apprend ce soir, c'est que c'est allé encore plus loin. Emmanuel Macron a lui-même été espionné, Nicolas Feldman.
Oui, Emmanuel Macron qui figure sur les listes des téléphones espionnés du temps où il était ministre de l'économie. Alors a-t-il été écouté quand il est devenu président? Difficile à dire pour le moment. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il a gardé depuis le même numéro de téléphone. Parmi les autres téléphones espionnés, on trouve l'ex-premier ministre Édouard Philippe ainsi que sa femme figurent aussi. 14 ministres, voilà pour les premiers noms de personnalités dont on vient d'apprendre, dont ces téléphones ont été infectés par ce logiciel Pegasus. Toute la question maintenant, c'est de savoir quelles données ont pu être recueillies et surtout au profit de qui. Pour l'instant, le cas du Maroc est avancé.
Voilà, révélation donc ce soir par le journal Le Monde. On va bien sûr, pendant ces deux heures, en parler largement. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, nous a rejoint. Bonsoir Louis.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
D'abord Louis, vous avez une première réaction à l'instant de l'Élysée.
Oui, l'Élysée est tout à fait conscient que ces accusations, en tout cas, sont très graves. Et donc l'Élysée réagit. Voici la réaction. Donc, on nous dit, si les faits sont avérés, ils sont très graves. Toute la vérité sera faite. Et ensuite, l'Élysée se satisfait que certaines victimes aient déjà porté plainte et que des enquêtes soient en cours. Et l'Élysée aussi termine sa réaction en expliquant, en rappelant l'encadrement du travail des services de renseignement et notamment la loi de 2015 qui est extrêmement stricte, notamment le travail de renseignement sur la question des mises sur écoute et de l'utilisation des techniques de renseignement concernant les journalistes et les avocats.
Louis, c'est un vrai scandale politique. Qui gère ce dossier au sein de l'État en ce moment ?
Alors, au sein de l'État, ça fait plusieurs heures, hein. Ça fait depuis même hier soir, enfin depuis dimanche soir en réalité, mais tout s'est accéléré aujourd'hui, puisque l'Élysée a été informée de la publication maintenant là, des révélations donc, du Monde et du consortium de journalistes. Et donc, c'est essentiellement deux organismes à ce stade, le SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, qui est dirigé par un préfet. Et donc, c'est un organe qui dépend de Matignon et qui s'occupe de la sécurité, de la sûreté de l'État, qui aussi s'occupe de vérifier que les moyens mis en place permettent de sécuriser notamment les liaisons téléphoniques du président, de ses collaborateurs. Et ensuite, il y a un autre acteur qui est rentré en jeu, c'est le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, ouais. Laurent Nunez, qui était ancien secrétaire d'État à l'intérieur. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas uniquement des ministres qui ont été ciblés, il y a des collaborateurs aussi du président, notamment le conseiller Afrique, Franck Paris. Et on apprend également que Alexandre Benalla, était sur les listes qui ont été
du corps du président Macron.
Voilà, sur les listes utilisées par le logiciel NSO.
Didier François, spécialiste des questions de sécurité, nous a rejoint également en studio. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
À quoi ça sert ce logiciel ? Logiciel, il faut le rappeler, israélien.
Alors, c'est extrêmement simple. Hein. C'est un petit logiciel qui a été créé dans un premier temps en 2016 et puis qui maintenant, depuis 2019, marche quasiment tout seul. Ça permet de prendre le contrôle de votre téléphone sans que vous en ayez la moindre idée. Ouais. En fait, donc, ça a accès. C'est comme si c'était vous qui l'utilisiez, mais vous ne le voyez pas. Donc
on n'a aucune preuve, en effet, que ça fonctionne. En tout cas, que notre smartphone est...
Il faut vraiment travailler dessus, ouais, pour pouvoir le détecter. Donc, ça allume votre micro, ça a accès à l'ensemble de vos messageries, y compris cryptées. Ça a accès à vos photos, à vos conversations téléphoniques. Comme ça allume le micro, si vous écoutez le téléphone et que vous avez une conversation dans une pièce, quelqu'un qui est à X milliers de kilomètres peut écouter la conversation dans la pièce. En fait, ça prend totalement le contrôle de votre téléphone, que ce soit un iPhone ou que ce soit l'équivalent PC, un Android.
Et il n'y a aucun moyen de protection ?
Alors si, il y a des moyens de protection, évidemment, mais sur le premier moyen de protection, comme d'habitude, sur ce genre de choses de sécurité, c'est de ne pas utiliser le téléphone dans les réunions confidentielles. Bien c'est sûr. La première chose qui est faite dans toutes les réunions confidentielles, on laisse les téléphones à la porte. La deuxième chose, c'est le petit système qui est le système de cache de Faraday, qui permet de mettre le téléphone dans quelque chose qui ressemble vaguement à une pochette, mais qui en fait empêche les ondes de communiquer. Et là, donc effectivement, il n'y a plus de possibilité d'agir, mais ça ne lui a pas empêché de pouvoir aspirer tout ce qui est contact, etc., etc. Alors après, on a quand même aussi en France la chance d'avoir une entreprise qui s'appelle Tetris et qui, elle, a développé un logiciel. C'est des anciens de la direction technique de la DGSE qui l'ont mis en place, qui permet de vérifier sur les téléphones si oui ou non ils ont été infectés par ce virus, qui est un virus qui est un logiciel d'espionnage. Et donc, voilà, on est les seuls avec les Américains à avoir, dans les pays occidentaux, comme ça, une capacité de vérification. Mais c'est un peu lourd quand même. Hein.
Didier, vous restez avec nous, bien sûr. Louis Dragnel à nouveau, des ministres écoutés, des chefs de parti, on comprend bien sûr l'intérêt. Pourquoi des noms de députés, de second, de parti moins exposés ? Quel est l'intérêt finalement ?
Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que même entre amis, toutes les grandes puissances s'écoutent. Alors, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais toutes les grandes puissances ont des services d'espionnage. Et nous, par exemple, la France, on a aussi un service de contre-espionnage qui permet justement d'essayer de parer aux tentatives des ingérences étrangères, ce qu'on appelle aussi les tamponnages. Enfin, il y a plein de techniques de renseignement qui sont utilisées. Et pourquoi, en fait, les grandes puissances, et alors, en l'occurrence, là, ce n'est pas une grande puissance, et d'ailleurs, c'est la nouveauté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que d'habitude, on s'habituait à avoir plutôt les Russes, les Turcs ou encore la Chine qui s'intéressaient à nos élites. Ouais. Et parce qu'en fait, il faut savoir quand même que l'espionnage, c'est un sport de riches et seules les grandes puissances peuvent se le permettre. Là, la nouveauté, c'est que c'est un pays qui n'est pas une grande puissance qui fait ça. Et donc, quel est l'intérêt ? Je vais répondre directement à votre question. Ouais. Eh bien, ça permet de savoir ce qui se passe en interne dans les partis politiques, d'essayer de sonder les fractures qui peuvent diviser la société, d'essayer de savoir, par exemple, je vous donne un cas pour le Maroc. On voit que la France insoumise, par exemple, s'est exprimée sur la question du Sahara occidental, qui est un sujet épidermique pour, ouais, le Maroc. Et donc, forcément, le Maroc peut avoir un intérêt, si en tout cas ces faits sont avérés, savoir ce qui se raconte au sein de la France insoumise, notamment avec Adrien Quatennens. Je voulais juste rappeler une toute petite chose, c'est que depuis quelques années, et Didier François a dit quelque chose de très juste, il y a une prise de conscience quand même au sommet de l'État de tous ces enjeux. Et donc, le président, alors, il utilise beaucoup ses téléphones personnels, et du coup, il prend des risques, mais il y a aussi des téléphones qui existent, ultra sécurisés. Il y a une application, par exemple, qui est disponible, que met en place les services services de l'Élysée pour que les conseillers de l'Élysée, entre eux, puissent avoir des conversations sécurisées. Et c'est toujours le SGDSN, l'organisme dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe de ça. Et sinon, ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des téléphones cryptés avec la société Thales, ouais. des téléphones Théorème, mais qui comportent quand même des inconvénients très difficiles lourd, d'utilisation, très lourds. Et très souvent, en fait, comme il faut que votre interlocuteur ait également un téléphone Théorème, eh bien, j'ai pu assister parfois à ce type de manipulation. Mmh. Eh bien, ça ne fonctionne pas très bien. Et du coup, eh ben, les interlocuteurs de l'État s'appellent directement sur leur téléphone. Et du coup, on contourne le système.
Ils utilisent le Théorème pour me dire « rappelle-moi sur mon téléphone ».
Exactement, et ça, c'est du vécu.
18h10 sur Europe 1. Si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle la principale information. On vient de l'apprendre à 18h en 2019. Information révélée par le journal Le Monde. Les numéros du chef de l'État, du chef du gouvernement de l'époque, Édouard Philippe, et de 14 ministres alors en exercice, ont été sélectionnés pour une éventuelle mise sous surveillance par le logiciel espion Pegasus pour le compte des renseignements marocains. Didier François, qui est avec nous, spécialiste des questions de sécurité, est-ce que le Maroc peut revendre ses données et à qui finalement ?
D'abord, en général, quand c'est un appareil d'État qu'il fait, c'est pas pour le revendre, hein, c'est parce qu'il en a un intérêt direct et qu'il veut l'exploiter. Après, il n'est pas absolument certain que les Israéliens n'aient pas mis un dérivatif sur le contingent de lignes que la société NSO avait fourni au Maroc, moyennant finance, et qu'ils ne se soient pas servis au passage sur ce qui se passait à l'intérieur. Honnêtement, à leur place, je pense que franchement, personne ne se gênerait. Donc le sujet, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, pour la première fois, des pays qui ne sont pas des grands pays du renseignement, qui ne sont pas des grosses puissances en termes de capacités techniques, ont eu accès à des capacités extrêmement importantes parce que ce sont des capacités israéliennes. Et les Israéliens ont mixé en fait, un travail d'appareil d'État, puisque en fait, tous les logiciels, enfin le logiciel en question a été créé par des jeunes réservistes de l'unité 8200, qui est l'équivalent de leur direction technique, qui est un peu leur ANSA. Et c'est 200 réservistes, mais qui travaillent toujours en fait pour le gouvernement israélien, de fait, puisqu'ils sont réservistes et ils ont signé les clauses de confidentialité. Et par ailleurs, si vous regardez la liste des 12 pays qui sont utilisés, qui sont les utilisateurs de Pegasus, vous voyez bien, la diplomatie israélienne est extrêmement présente. Vous voyez l'Inde, vous voyez des pays qui sont aujourd'hui vraiment des proches d'Israël.
Juste pour terminer sur ce point, ça va être la question des prochaines heures. Ça fait 30 ans qu'on entretient des relations formidables avec le Maroc, qu'on déballe le tapis rouge. Ça pose la question des futures relations diplomatiques. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment on va se comporter avec le Maroc ?
Eh bien, figurez-vous qu'on n'a pas une relation si simple que ça avec le Maroc. Sur la coopération militaire, ça fonctionne assez bien. La lutte antiterroriste, ça fonctionne assez bien. Mais il y a eu un précédent, et je crois que c'était en 2015 de mémoire, avec l'interpellation dans les aéroports de Paris de Abdelatif Amouchi, qui est le patron de la DST marocaine. C'est le service de renseignement intérieur marocain. Et du coup, ça a cristallisé un peu les relations. Donc évidemment, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est vérifier que tout ça est vrai. C'est pas parce que votre numéro figure sur une liste pour un potentiel ciblage que vous avez été ciblé. Ensuite, ça montre quand même une intention de cibler. Mais la question, la vraie question, c'est à qui profite le crime ? Est-ce que le Maroc a fait ça dans son intérêt ? Ou est-ce que le Maroc l'a fait pour le compte d'un pays tiers ? Parce que vous savez, il y a aussi un autre business dont on ne parle pas, et je termine par là, c'est le business du renseignement qu'on peut vendre aussi à d'autres puissances étrangères. Et ça permet à l'autre puissance étrangère de ne pas apparaître.
Merci à vous, on va bien sûr en continuer à en parler ce soir sur Europe 1. Louis Dragnel, Didier François, grand merci. 18h14, également dans l'actualité, Sophie Tussaud, la fin de la traque pour retrouver l'homme en cavale depuis dimanche.
Oui, Marc Floris, soupçonné d'avoir tué une femme près de Saint-Tropez, était recherché depuis dimanche. Le corps d'un homme correspondant au fugitif a été retrouvé dans le village de Gréolière, dans les Alpes-Maritimes, où vous vous trouvez, Frédéric Michel.
Oui, le corps de Marc Floris a été retrouvé à plusieurs centaines de mètres de son habitation dans un relief montagneux, accidenté et escarpé, où les recherches appuyées par des hélicoptères et des chiens, notamment un Saint-Hubert, ont permis à 13h09 d'identifier l'auteur présumé du meurtre d'une jeune femme 3 jours plus tôt dans le Var. Le colonel Nasser Boualam commande le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes.
On a à la fois des équipes à pied et un dispositif aérien qui, combiné, permettent de resserrer la zone en question. Et je dirais que la manœuvre répétée, continue depuis dimanche midi et non-stop, a procédé à mettre la pression sur l'adversaire et à le contraindre à se déplacer.
Si aucune piste n'est écartée, la thèse du suicide est privilégiée. Après 3 jours de traque, la pression est retombée à Gréolière, mais comme au plan de la Tour, dans le Var, où cet engrenage mortel a débuté dimanche avec le meurtre d'une mère de famille de 32 ans, beaucoup de questions restent sans réponse. Marc Malfatto, le maire de Gréolière.
Pas eu de panique, non, il y avait peut-être de l'inquiétude, puisqu'on recherchait, d'après ce que l'on disait, un personnage armé et dangereux. Bon, ma foi, c'est les événements qui font que le personnage est devenu dangereux. Nous, les vivants, on va continuer à commenter des choses qui nous échappent, puisque la mort a emporté ces deux personnes.
Et demain, la commune du Plan de la Tour, dans le Var, rendra hommage à Dorian. Un rassemblement est prévu à 18h devant la mairie.
Frédéric Michel, à Gréolière pour Europe 1.
L'autre information de cet après-midi à retenir, c'est une nouvelle étape importante dans le tourisme spatial. Le milliardaire américain Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a effectué aujourd'hui son premier vol dans l'espace.
Oui, un vol depuis le Texas avec 4 personnes à bord de la fusée New Shepard, sur laquelle son entreprise Blue Origin avait travaillé durant des années. Il y avait donc durant ce vol son frère, une femme de 82 ans, un jeune homme de 18 ans. Une expérience qui a duré une poignée de minutes lors d'Autriche.
Oui, la capsule avec 4 personnes à l'intérieur est comme un point blanc au milieu du désert, un point blanc qui s'est élevé vers le ciel. La capsule était au sommet de la fusée, puis s'est détachée. Ce sont des années de travail qui sont récompensées pour les ingénieurs qui ont conçu cette fusée et ce vol spatial vraiment depuis très longtemps. Il a fallu 4 minutes pour atteindre la frontière de l'espace. Le vaisseau grimpe à 105 km d'altitude. À ce moment-là, les passagers sont en apesanteur. Ils peuvent détacher leur ceinture un court moment et voilà ce que l'on entend avec les micros qui sont installés à l'intérieur.
Wow. On flotte. Regardez, à travers le hublot, c'est le vide spatial.
Oh, et puis regardez de ce côté, c'est incroyable, c'est tout noir.
Le noir, c'est le noir de l'univers. L'univers d'un côté, la courbe de la Terre de l'autre. Voilà le spectacle qu'on ne peut voir que depuis l'espace. La capsule est ensuite redescendue, freinée par 3 parachutes géants, et elle s'est posée de manière autonome dans le désert du Texas, quasiment à l'endroit exact qui était prévu. Voilà une étape supplémentaire qui doit permettre à l'avenir d'envoyer davantage de touristes dans l'espace.
Lors d'Autriche.
Merci beaucoup Sophie Tussaud, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo, Marlène Duré, du beau soleil encore ?
Ah oui, on se réveille sous le soleil. Demain, on notera simplement des entrées maritimes un petit peu comme ce matin au sud de la Garonne. Dans les régions du sud-ouest, ça va se morceler en cours de journée. Et puis dans l'après-midi, quelques averses sur les massifs montagneux, principalement le massif central, les Pyrénées, les Alpes. Quant aux températures, elles sont stationnaires. Allez, 26 à 30 degrés au nord avec 30 à Paris. Toujours des pointes à 31-32 du côté de la Bretagne. Dans le sud-ouest, comptez 29 à 34 degrés. Et du côté du sud-est, 33 à 36 dans les terres et 27 à 30 sur la Côte d'Azur.
Merci Marlène. 18h30, nouveau point météo.